أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Excusez-moi exceptionnellement, chers frères, aujourd'hui de m'adresser à vous en français. D'une façon exceptionnelle, pourquoi ? Parce que aujourd'hui et durant ce mois béni du Ramadan, nous vivons une période de canicule, de forte chaleur. Et il y a beaucoup d'interrogations et beaucoup de questionnements par rapport aux préceptes et aux pratiques rituelles de l'islam. Et qu'en est-il lorsqu'il s'agit de ces circonstances ? D'abord, je commencerai par une parole que j'ai reçue de l'un de nos maîtres, qui me disait que les gens qui parlent de l'islam, qu'ils doivent savoir en premier degré que cette religion est une religion qui est conforme à la nature originelle de l'homme, une religion qui est toute miséricorde, toute justice et toute bonté. C'est des propos de l'un des théoriciens et des spécialistes des finalités de la loi révélée, Maqasid al-Sharia, et qui est Abu Ishaq Shatibi radiyallahu anhu, alladhi yaqul al-Shari'atu khayrun kulluha wa rahmatun kulluha wa adlun kulluha. Fa'idha kharajat min al-rahmati ila al-qaswati wa'idha kharajat min al-adli ila al-juri wa'idha kharajat min al-khayri ila al-sharri فليست من الشريعة في شيء. Et il suffit de rappeler tout simplement quelques versets qui rappellent l'une des caractéristiques fondamentales de la loi révélée et qui est la facilité et l'exclusion de toute pénibilité et de toute gêne. الحرج والمشقة. قال الله تعالى وهو يتحدث عن الجهاد الحقيقي الذي هو الجهاد بالمعنى الروحي وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج Il ne vous a imposé aucune gêne, aucune pénibilité en matière de religion. Lorsqu'il s'agissait même de défendre les territoires de l'islam et la cause de l'islam, dans sourate al-Fath, Allah tabaraka wa ta'ala yaqul laysa 'ala al-a'raji harajun wa la 'ala laysa 'ala al-a'ma wa 'ala laysa 'ala al-a'ma harajun wa la 'ala al-a'raji wa la 'ala al-marid haraj. Donc celui qui est boiteux, celui qui est non voyant, celui qui est malade n'est pas concerné par ces préceptes et par ces recommandations divines. Et puisque nous sommes dans une période de jeûne, à propos de cette pratique rituelle islamique qui est le quatrième pilier de l'islam, un pilier fondamental, une pratique fondamentale. Les versets coraniques de la sourate al-Baqarah, la sourate numéro 2, à partir du verset 182, où Allah Azza wa Jalla dit : Ô vous les croyants, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé. Des jours comptés. La'allakum tattaqoun, peut-être atteindrez-vous la piété. Celui d'entre vous, faman kana minkum maridan aw ala safarin, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Celui d'entre vous qui est malade ou qui est en voyage, et d'ailleurs j'ouvre une parenthèse, quel que soit le moyen du voyage, qu'il s'agisse d'un avion, qu'il s'agisse d'autres moyens de transport, du moment qu'il y a le voyage, la personne est autorisée à ne pas observer le jeûne. Et d'ailleurs, dans l'esprit de l'islam, il est rapporté dans une tradition prophétique, « Laysa min al-birri as-sawmu fi safari ». Le jeûne durant le voyage ne relève pas de la bonté ou de, je dirais, de la piété ou d'un acte de religiosité qu'on veut un petit peu manifester. Ce n'est pas du tout l'esprit de la loi de l'islam. Et encore, ce verset, celui d'entre vous qui est malade ou qui est en voyage, jeûnera un nombre égal d'autres jours, est répété deux fois dans les versets de Sourate al-Baqarah. Et dans la deuxième citation de ce verset, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Que dit le verset après cela? Celui d'entre vous qui est malade ou qui est en voyage jeûnera un nombre égal d'autres jours. يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Dieu veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Alors, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est que la vision et la conception d'un non-croyant et d'un croyant sont différentes. Et le croyant, il voit les choses à partir de ce qu'on peut appeler une logique juridique et non pas une logique laissée à tout individu. Parce que les appréciations sont différentes, elles ne seront jamais les mêmes, elles ne seront jamais égales. Et là, ça pose problème. Donc, la notion de pénibilité elle-même, la notion de gêne, al-mashaqqatu wal-haraj, c'est la loi elle-même qui détermine cela. Il est tout à fait normal que quelqu'un qui n'est pas motivé par une foi, que quelqu'un qui n'a pas une foi en une valeur transcendante, pour lui, le jeûne, ça ne peut être qu'une torture. Et à ces gens-là, on n'a rien à dire parce que notre débat n'est pas avec eux. Et c'est pour cette raison que même les orientalistes contemporains qui se sont penchés sur la question juridique de l'islam, c'est la science de ilm usul al-fiqh qu'ils ont déterminé par ce titre-là et par cette appellation, la logique juridique. Je poursuis pour ce qui est de la gêne et de la pénibilité. Al-mashaqqatu wal-haraj. Awalan, al-mashaqqatu. La pénibilité et la gêne ne sont pas des finalités de la loi. Laysat min maqasidi al-shari'i. Wal-shari'u la yaqsudu al-mashaqqata. Le législateur, à travers ses recommandations, il ne vise pas la gêne et la pénibilité au niveau des responsables, al-mukallafin. Et d'ailleurs, l'imam Shatibi, souvent il cite cet exemple pour comprendre un petit peu la chose. Il dit que le médecin, lorsqu'il vient soigner un malade, il n'a nullement l'intention de le faire souffrir. Il n'est là que pour une finalité positive, c'est contribuer à sa guérison et fournir les soins nécessaires. Mais malgré cela, malgré cette intention et cette finalité qui est celle du médecin, il est nécessaire pour le patient de lui administrer des solutions amères. Il est nécessaire de le piquer. Mais ce n'est pas l'intention du médecin. Lidhalika, l'imam Shatibi قال المشقة ينظر إليها من وجهين ينظر إليها من جهة الوجود, du côté de l'existence réelle et effective de cette gêne et de cette pénibilité, et elle peut être vue et envisagée sous un autre rapport qui est le rapport de la finalité du législateur et la visée du législateur à travers la recommandation des préceptes et des pratiques religieuses. Il dit de ce rapport-là, le législateur n'envisage pas du tout d'imposer une gêne et une pénibilité au responsable légal, al-mukallaf. Ah, maintenant, et c'est là le point essentiel du débat, maintenant la présence de cette pénibilité et de cette gêne, il est tout à fait évident que toutes les pratiques religieuses, il y a une gêne et une pénibilité relative, modérée, qui est inhérente à ses préceptes. Sinon, les préceptes eux-mêmes n'auront aucun sens dans la vie des hommes. envisager des préceptes et des recommandations divines qui s'inscrivent dans la finalité essentielle qui est l'épreuve, l'ibtila ou l'ikhtibar, تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Béni soit celui qui détient la royauté et celui qui est puissant sur toute chose, celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver. Donc la vie est un champ d'épreuve. Et on ne peut pas, dans la conception traditionnelle, on ne peut pas imaginer qu'il y ait une pratique dans l'islam sans qu'il y ait une gêne, sans qu'il y ait même un certain degré de souffrance. Mais cette gêne et ce degré de souffrance sont à prendre dans le cadre d'une règle que l'imam Shatibi a établie en disant « L'il-mukallafi an yadkhula fil amal ash-shaqi » ولكن ليس له أن يقصد المشقة. Le responsable légal, le croyant, en procédant à la pratique religieuse, il a le droit de s'imposer à lui-même une certaine gêne, mais il n'a pas le droit de dire que cette gêne, elle est une visée de la loi. Parce que en disant cela, il s'oppose à la visée de Dieu lui-même, qui n'a imposer en matière de religion aucune gêne et aucune pénibilité. ليس للمكلف قصد المشقة ولكن له الدخول في العمل الشاق. لماذا يدخل في العمل الشاق؟ Ça c'est une question individuelle. لماذا يدخل في العمل الشاق؟ Pourquoi il s'engage? Et d'ailleurs il y a même des traditions. Celui qui jeûne un jour en dehors du Ramadan, dans un temps de chaleur, celui-là sera éloigné de l'enfer 70 ans. Donc on va éliminer ça et on va dire ça. Ça ne fait pas partie de. Donc il y a deux logiques différentes, celle du croyant et celle de celui qui ne l'est pas. Sinon, si les choses seront laissées à l'appréciation individuelle de chaque personne, à ce moment-là, il y aura pratiquement beaucoup de problèmes pour observer les pratiques religieuses. D'autant plus que le Coran rappelle « وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامِ مَسَاكِينَ » Et d'ailleurs, là, il y a un problème de traduction. Celui qui peut l'observer, mais ceux qui peuvent l'observer doivent l'observer en fonction de leur appartenance à la foi. Mais parce que le verbe yutiqunahu yusamma fi al-lughah al-arabiyyah bil mushtarak bayna ma'nayayn mutawaddayn yutiqunahu ya'ni yastati'un wa lahu ma'nan akhar wa huwa al-ma'na al-maqsoud fi al-aya al-karima wa 'ala alladhina yutiqunahu, ça veut dire ceux qui ne peuvent pas l'observer, ceux qui ne peuvent l'observer qu'avec une gêne et une pénibilité. Mais cette gêne et une pénibilité, c'est par rapport aux personnes malades, par rapport aux personnes âgées. Mais une personne en possession de ses facultés mentales, en possession de sa santé physique, il va nous dire que, wallahi, aujourd'hui, je trouve que le jeûne est très pénible. Est-ce que vous avez une possibilité de nous dire, de nous donner quelque chose, un avis qui me permet d'aller boire ou d'aller manger? C'est pas la loi de l'islam. Abadan. Lidhalika al-marid, celui qui est atteint d'une maladie, il a le droit de ne pas observer le jeûne et de réparer le jeûne dans d'autres jours, durant les 11 mois. Il ne faut pas qu'il laisse passer les 11 mois qui suivent le mois de Ramadan. Si les 11 mois du Ramadan, qui suivent le Ramadan, sont écoulés et qui n'a pas réparé les jeûnes, les journées non jeûnées, alors il sera concerné par une réparation, qava, et en plus de donner un rachat, fidya, par rapport à chaque jour non jeûné. Celui qui est malade, Mais sa maladie, elle est incurable. C'est une maladie chronique. Il est astreint à un traitement à vie. Celui-là, la loi ne lui impose pas de jeûner. Elle lui autorise de manger normalement et il donne un repas, ou bien en nature, ou bien l'équivalent qui est évalué à 5 euros aujourd'hui, pour chaque journée. Et il n'est plus concerné par le jeûne. Rentre dans ce cas les diabétiques. Venons maintenant à la femme enceinte, al-mar'a, la femme enceinte. Vous voyez, on est en train de parler dans une logique juridique. On n'est pas en train de parler, ah vous savez, c'est très pénible. Mais ça, c'est des évaluations subjectives et personnelles. Je tiens à rappeler d'abord que la grossesse est un événement heureux et ne constitue point une maladie. Il faut se rappeler cela. Donc, il est évident, si une femme enceinte trouve des difficultés, il va de soi qu'elle est autorisée à manger et réparer après. Même si elle répare 2 ans après parce qu'elle est censée allaiter après l'accouchement, eh bien, elle ne sera pas concernée par le rachat, elle sera concernée juste par Al-Qadha. Pourquoi ? Parce que l'allaitement, c'est quelque chose d'involontaire. Ce n'est pas de sa propre volonté qu'elle a reculé la réparation. Donc, ça, c'est des choses, en principe, du point de vue de la loi, qui ne posent aucun problème. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est que les gens qui ne sont pas imprégnés de cette logique juridique, et ils voient la chose à partir d'une conception personnelle, où la foi également est absente totalement, donc pour un individu comme ça, yani pour lui, on est tout à fait d'accord avec lui que le jeûne en plein chaleur ne peut être qu'une torture, pour lui. Mais ça, c'est son affaire. D'accord ? Nous, nous raisonnons dans une logique qui est la logique juridique, la logique de la loi. Il en va de même lorsque des gens viennent, et ça, je dis qu'il y a une culture, il y a un déficit de cette culture juridique chez les musulmans. De sorte que, des fois, on est surpris d'avoir des questions. Il y a quelqu'un qui est hospitalisé, il est perfusé, est-ce qu'il doit jeûner ? La question ne se pose même pas. Il y a ni une personne perfusée. Si elle est perfusée, c'est qu'elle doit être alimentée parce qu'elle est dans un état relativement sérieux. Donc cette question ne se pose même pas. Et puis ensuite, cette chose, elle est restée dans le cadre de la loi, elle est laissée à la décision et à l'appréciation personnelle du responsable, al-mukallaf. Oui, l'autorité de la lettre du texte, qu'il s'agisse d'un texte coranique ou d'un texte de la loi, de la tradition prophétique, lorsque quelqu'un vient consulter un jurisconsulte, il lui dit, je suis malade. Moi, du moment que j'ai entendu ce terme, marid, j'applique le verset. Je ne cherche pas à comprendre. Maintenant, l'évaluation de la maladie, c'est à la personne de l'évaluer, c'est pas à moi. Ou c'est à son médecin de l'évaluer, c'est pas à moi. Ana ja wahed qal li rani marid, nqol le koul. Ashrab. Waqdi. يقول لي لا ولكن المرض نتاعي هذا عندي السكر وعندي لاطونسيون وعندي القلب نقول له انت ما تزيدش تصوم انت اطعم على كل يوم يجي واحد يقول لي ولكن شوف راه صحيح راه لاباس عليه راه يمشي نقول له انا ما يهمنيش هذا الامر انا قال لي انه مريض والله تعالى يقول في الايه الكريمه فمن كان منكم مريضا فاطبق من حوش نفهم وقال الله تبارك وتعالى وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Pour les gens qui sont astreints à des travaux forcés, où il y a la chaleur, ces gens-là sont autorisés à boire. Et d'ailleurs, l'un des grands juristes algériens, Cheikh Ahmed Hammani, rahmatullahi ta'ala alayh, et qui était membre du conseil juridique dans le monde musulman à Jeddah, lorsqu'on lui a posé la question des fours de Arzeux, dans le domaine de la sidérurgie, il est allé, le Hadjar, il est allé lui-même sur les lieux. Il n'y a pas de problème. لأن هذا عمل شاق. Donc, les personnes âgées, les personnes qui sont malades, et lorsque, de surcroît, nous vivons des circonstances, pas pour les gens normaux, pour les gens normaux, وأن تصوموا خير لكم. Maintenant, les cas isolés, يكون واحد يمشي في الطريق, يقول لك أنا حنطيح, أو راح يغمى علي, je vais m'évanouir. La question ne se pose plus. يشرب هكذا ما جعل عليكم في الدين من حرجين. Donc il y a une logique par laquelle ou à travers laquelle on doit traiter ces questions, qui est notre logique à nous en tant que logique juridique de l'islam, mais les gens qui ne partagent pas avec nous cette logique parce que ce ne sont pas des co-religionnaires, chacun a le droit de se faire l'idée et l'opinion qu'il veut, mais sans l'imposer à quiconque. C'est pour cette raison que, yani, dans l'islam, il y a quelque chose de fondamental dans l'islam. Hada shay'un, c'est quelque chose de caractéristique à l'islam. Il n'y a point de vie monastique dans l'islam. La rahbaniyata fil islam. Et dans l'islam, l'ascèse, az-zuhd, n'est pas une question physique, n'est pas une question apparente. Az-zuhd hada. واحد يجي يقول لك انا راني زاهد. علاش راك زاهد يا سيدي؟ واش انت محسوب انت راك حاب تتمربط علينا يعني انت محسوب لازم تدير هكذا باش ربي انت تكون مع الاوائل؟ ما كانش هذه في الاسلام. ان الله لا يمل حتى تملوا. خذوا من الامر ما تطيقون. فان المبتلى ظهرا ابقى ولا ارضا قطع. Point de vie monastique dans l'islam. Et d'ailleurs, un jour, quelqu'un s'est entretenu de Bagdad et de Khorasan, se sont entretenus 2 mètres sur l'ascèse. Zuhd, mas zuhdu indakum. L'ascèse chez nous, c'est que lorsqu'on a, on donne, et lorsqu'on n'a pas, on patiente. Qallu hadha, ceci, c'est l'ascèse même, c'est le comportement même des animaux. Quand on leur donne, ils remercient. Il manifeste une reconnaissance instinctivement, y compris un animal. Et si on ne leur donne rien, ils patientent. Alors quelle est la cèse chez vous? Ma huwa az-zuhdu 'indakum? Qal az-zuhdu 'indana. Lorsqu'on est privé, on remercie. Et lorsqu'on est gratifié, on donne. Lorsqu'on est privé, on remercie. Et lorsqu'on est gratifié, on donne. Et un jour, même dans la spiritualité de l'islam, ceux qui se sont imposés à eux-mêmes des exercices de combat spirituel, il faut que ça soit dans la modération et dans l'esprit du juste milieu. Un jour, un maître a vu son disciple mettre une jarre d'eau au soleil. Il est venu le voir. Allô, qu'est-ce que tu es en train de faire? Allô, vous savez, allô, moi je ne suis pas digne de faire l'objet de la miséricorde divine en raison de mes péchés. C'est pour ça que je ne mérite pas de voir une eau fraîche. Allô, chauffe, prends cette jarre, va la rafraîchir. Comme ça, lorsque tu boiras, lorsque tu consommeras une eau fraîche, la louange et la reconnaissance envers Dieu sortira des profondeurs de toi-même. ماشي من لسانك. لهذا احنا ما عندناش تبربيط، ما عندناش لا رهبانية في الإسلام، الوسطية. ولذلك قال الإمام الشاطبي: شريعة الإسلام وأحكامها تجري كلها على الوسطية، فإذا خرجت من الوسطية، si elle quitte le juste milieu vers les deux extrêmes, ceci ne constitue en aucune manière l'esprit de la loi. Maintenant, si quelqu'un nous dit, moi, je veux m'imposer à moi, parce que je veux être gratifié ou je veux bénéficier de cette faveur et de cette récompense qui est évoquée dans un texte. جاء الثواب في نص بأن من فعل كذا ومن فعل كذا يضاعف له الأجر. نقول لهذا المكلف نعم لك ذلك، ولكن لا تقول أن هذه شريعة الإسلام، ولا تقول أن الله عز وجل هو الذي يقصد ذلك مني، لأن هذا القصد مخالف لقصد الشارع. لذلك أيها الإخوة، الشريعة لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون، وكم هي الآيات الكريمة التي تقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله ليخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. الله عز وجل veut alléger pour vous les choses، ويقول l'homme a été créé faible mais cette faiblesse. Voilà le problème. Comment on la comprend nous et comment les autres la conçoivent. يجي واحد يقول لك cette faiblesse، يقول لك الآن أنا راني صحيح لبس عليا ولكن راني ضعيف. إيه بطبيعة الحال التكاليف لم تسمى تكاليف إلا لأن فيها كلفة، وإذا انعدمت المشقة المعتادة من التكاليف فلا تصبح التكاليف تكاليفا. لذلك قسم الإمام الشاطبي المشقة إلى مشقة معتادة ومشقة غير معتادة ومشقة زائدة عن المعتاد، والمشقة الداخلة على المكلف بعمله والمشقة الداخلة على المكلف بغير عمله. C'est une théorisation de la notion de pénibilité et de gêne qui est établie dans cet ouvrage exceptionnel et original qui est كتاب الموافقات للإمام الشاطبي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. أيها الإخوة الكرام، اسمحوا لي في آخر هذا الدرس يعني أن أذكر بالتسجيلات للحج إلى بيت الله الحرام، les inscriptions pour le pèlerinage au lieu saint de l'islam. Donc en raison des places limitées, les inscriptions sont déjà ouvertes et en raison des places limitées, donc nous prions les gens qui sont concernés, qui souhaitent accomplir ce rite de l'islam, de s'adresser à ce service au 01 45 35 70 26. Comme nous vous annonçons également que l'administration de la mosquée de Paris envisage de changer donc la moquette avant la prière de l'Aïd, inshallah. Donc nous faisons de nouveau appel à votre largesse et vos actes de et vos dons, inshallah, pour accomplir et pour réaliser ce travail. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin, walhamdulillahi rabbil alamin.